Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal Gisèle Cage.
Bonjour à tous, merci d'être nombreux à suivre cette édition du journal sur Radio Kapi. Commençons par le titre. Depuis trois jours, Bukavu est en proie à des tensions armées intenses dues à l'avancée des rebelles du M23. Après les pillages dévastateurs de samedi, des tirs nourris ont retenti sans interruption, plongeant la population dans la panique. Ce dimanche matin, les rebelles ont fait une apparition très visible dans la capitale du Sud Kivu, selon les témoignages des habitants. Plus de peur que de mal ce dimanche à Kinshasa. Aucune manifestation n'a eu lieu. Les chrétiens catholiques ont prié sous la surveillance policière renforcée. Jeudi dernier, des partisans de certains partis politiques avaient proféré des menaces inquiétantes contre les églises catholiques et protestantes. Depuis la deuxième semaine de cette année, le choléra sévit dans les zones de santé des Kalemi et de Niemba, dans la province du Tanganyika. Cette situation est due à la consommation d'eau non traitée provenant du lac Tanganyika et de la rivière Lukuga. Pour en savoir plus, nous recevons Germain Kalunga, superviseur chargé de soins de santé primaire dans la zone de santé des Kalemi. Il est notre invité. Faisons le point sur la situation à Bukavu, où une vive tension persiste depuis vendredi. La ville est paralysée par des tirs, des pillages, tandis que la population reste confinée de jour comme de nuit. Pour mieux comprendre l'évolution de la situation sur place, Ronelli Timbonera nous rejoint en studio. Bonjour Ronelli.
Bonjour Gisèle Cage.
En cette mi-journée, quelle est la situation à Bukavu? Les rebelles du M23 sont-ils présents dans la ville ou se sont-ils retirés, comme le laissent entendre certaines rumeurs sur les réseaux sociaux?
Ah, merci beaucoup Gisèle. Là, il faut dire que depuis 6h du matin, des combattants du M23 ont fait une apparition très visible dans la capitale du Sud Kivu. Des colonnes de soldats armés et portant des sacs sur les dos ont été aperçus en provenance de Kazingo, dans le territoire des Kabaré, se dirigeant vers la ville de Bukavu. À leur arrivée à la place de l'Indépendance, ces hommes se sont dispersés dans plusieurs directions, notamment au niveau de la commune des Kadutu. Un habitant que nous avons joint depuis le quartier Nkafu rapporte que les rebelles ont pris le contrôle de l'antenne des Karalé. D'autres témoignages, notamment ceux des habitants du secteur d'Ilisewima, confirment leur présence dans la ville. Dans la commune d'Ibanda, l'un des chefs de cette rébellion s'est exprimé simultanément devant un groupe restreint d'habitants à la place de l'Indépendance et au niveau du rond-point feu rouge. Il a exhorté la population à éviter les attroupements pendant 3 heures. Par ailleurs, on a vu des jeeps transportant les rebelles au niveau du quartier Ngouba, à proximité de la frontière avec le Rwanda.
De manière générale, comment réagit la population des Bukavu face à la présence de troupes du M23 dans leur ville?
Alors, s'il faut parler par exemple de la commune de Bagira, là, quelques jeunes ont été vus sur la route lors du passage des rebelles. Il s'agissait principalement de curieux, mais la majorité des habitants sont restés cloîtrés chez eux, attendant bien sûr les consignes des nouveaux occupants de la ville. Dans plusieurs quartiers de la commune de Kadutu, la prolifération des armes à feu présente une menace. Un habitant sous couvert d'ailleurs d'anonymat exprime son inquiétude face aux armes abandonnées par certains militaires en retraite. Il souhaite même qu'elles soient rapidement récupérées pour éviter qu'elles ne tombent entre les mauvaises mains.
Et quel est l'impact de cette situation sécuritaire dégradée sur les activités quotidiennes de la population?
Alors, les activités, pour l'instant, sont à l'arrêt. La plupart des commerces restent fermés et les rares boutiques encore épargnées par les pillages ont baissé les rideaux. Le responsable de pharmacie, notamment dans les quartiers se trouvant dans la commune de Bagira, au niveau de la brasserie, ont verrouillé leurs établissements par crainte de vol. Et là, on peut dire que la ville demeure dans un climat de tension et d'incertitude.
Merci pour toutes ces précisions, Ronelli Timbonera. Et je vous souhaite de passer un bon dimanche.
Merci beaucoup, Gisèle Cage.
Nous poursuivons ce journal et restons à Bukavu. La terreur s'est emparée des habitants après le pillage dévastateur de ce samedi. Des tirs nourris ont résonné sans relâche toute la nuit et continuent de s'aimer la panique ce dimanche matin. Les habitants terrifiés confirment la présence de rebelles du M23. Nous venons encore de les dire. Certains habitants racontent leur calvaire au micro de Radio Kapi.
C'est vraiment une panique totale qui était observée toute la nuit. Au grand matin, il y a eu encore des coups de balle. Quand il y a eu un groupe de rebelles du M23 soutenus par le Rwanda qui sont entrés encore dans la ville en provenance de Kavumu. Et la vie socio-économique est très compliquée. Pas d'eau potable jusqu'à présent, seulement le courant électrique. Nous sommes enfermés dans des maisons. Si on tentait sortir, c'est toujours compliqué. L'entrée pour Windy Bralima, tout a été pillé.
Hier, il y avait des tirs qui venaient de partout dans la ville de Bukavu. On n'a pas si c'était quoi, mais c'est après qu'on va se rendre compte que nos militaires font des essais. Ils ont abandonné leurs armes et leurs tenues. Et puis les enfants de la rue et les bandits, ils ont récupéré ça et ils ont commencé à tirer, portant même les tenues des phares d'essai.
Du côté de la commune de Kadutu, la situation semble s'apaiser. La population ou les gens se retrouvent déjà dans les rues, dans les avenues, en train d'observer ce qui se passe. Et le pillage a cessé du côté de Kadutu, ça reste à Brasserie, ça c'est déjà à la commune de Bagira. Les gens tentent vraiment de sortir et observer ce qu'il y a. Les éléments du M23 sont entrés paisiblement, il n'y a pas eu vraiment de tirs.
La progression des rebelles du M23 soutenue par l'armée rwandaise pousse plusieurs habitants du Sud Kivu à fuir vers le Burundi. Quelle est la situation pour ceux qui sont à Bujumbura? Comment sont-ils reçus par les autorités burundaises? Suivez ce témoignage d'un Congolais depuis Bujumbura.
Bonjour messieurs les journalistes, je suis à Bujumbura au niveau du point de contrôle de la commune de Mutimbuzi où je venais en fait avec mon véhicule pour aller me ravitailler en carburant au niveau du Congo. Mais nous sommes bloqués ici depuis le matin parce qu'il n'y a pas de passage du côté congolais, surtout du côté burundais. Devant moi, je suis en train de voir passer plusieurs véhicules à bord desquels il y a des Congolais et des Burundais qui viennent du Congo et qui sont orientés directement vers les camps de la police de Gatumba ici. Donc là, sur place, ils sont triés. Les Burundais sont séparés des Congolais et ils sont relâchés sur présentation de leurs identités. Mais les Congolais aussi passent à l'interrogatoire. Donc, un à un, chacun essaie un peu d'expliquer les mobiles de son entrée au Burundi. Il y en a aussi parmi les Congolais qui sont refoulés. Ceux-là qui n'ont pas de documents ou qui ne se justifient pas bien, ils sont en train d'être refoulés. Il y en a d'autres aussi qui sont orientés vers les camps des réfugiés. Donc, sur place, au camp de Gatumba, il y a le service de l'OIM, Organisation internationale des migrations, qui essaie un peu de poser des questions à ceux-là qui viennent de la plaine de la Ruzizi et d'Uvira.
Au Nord Kivu, de centaines de familles, des militaires et policiers qui vivaient dans le camp Katindo et ailleurs vivent à la belle étoile depuis la prise de la ville de Goma par le rebelle. Après avoir fui le camp militaire de Katindo, à la suite des affrontements, ces familles se retrouvent en errance, les unes dans les écoles, d'autres dans des familles d'accueil et d'autres encore dispersées ça et là, témoigne une mère de famille. Tous ces ménages constitués des femmes, enfants et des blessés de guerre vivent difficilement, sans aucune assistance. Nombreuses ont tout laissé avant de fuir. Ces familles qui ont trouvé refuge dans les écoles de Goma sont aujourd'hui sommées par le responsable scolaire à évacuer les salles de classe en vue de permettre la reprise des cours. On sait que regrette Marie Solange, coordonnatrice de l'association IMECO. Suivez.
Quand ils sont entrés, ils ont tiré en désordre. Tout le monde a fui. Les gens sont morts. Nous étions obligés de quitter les camps. Ceux qui avaient la possibilité de prendre quelque chose l'ont pris, mais d'autres n'ont pas pu parce que cette guerre nous a surpris. On ne s'attendait pas à ce que ça arrive dans la ville. Nous sommes sortis un dimanche. Chacun s'est réfugié là où il pouvait, car ça tirait beaucoup. Certains sont allés dans les écoles, d'autres dans des familles d'accueil. Là, ils n'ont n'ont même pas de médicaments en cas de maladie des enfants. En cas de décès, il n'y a même pas où enterrer. Beaucoup de gens sont blessés, d'autres sont amputés et ne sont pas soignés. Donc, nous vivons ici à Goma comme des poules, des gens sans valeur. Nos enfants qui ont l'âge de 14, 15, 16 ans courent beaucoup de risques. Ils sont considérés comme des militaires. On les prend n'importe quand.
C'était là Madame Marie Solange, coordonnatrice de l'association Union pour l'entraide mutuelle IMECO. Depuis trois jours, les activités économiques tournent au ralenti dans la ville de Beni. Toujours au Nord Kivu, cette situation fait suite à l'appel des mouvements citoyens et des groupes de pression demandant à la population d'observer deux jours sans activité, jeudi et vendredi, en signe de protestation contre l'assassinat de l'artiste musicien Katembo Delcat Idengo, abattu par balle jeudi à Goma. Jusqu'à ce dimanche, les activités économiques n'ont toujours pas repris normalement. Le point de la situation avec André Kitenge.
La plupart des magasins sont restés fermés depuis jeudi dans la ville de Beni, où beaucoup de commerçants hésitent encore à reprendre les activités. Ils disent craindre des manifestations spontanées qui pourraient éclater à tout moment avec l'annonce de l'arrivée de Goma du corps de l'artiste musicien Katembo Delcat Idengo, un enfant du milieu très populaire dans la région. Boutiques, magasins et banques n'ont toujours pas repris leurs activités normalement. Les commerçants ne veulent pas prendre le risque d'ouvrir totalement leurs magasins pour éviter des actes de vandalisme habituellement enregistrés lors des manifestations des rues dans la ville. Des commerçants rencontrés au centre-ville disent attendre l'inhumation du musicien Delcat Idengo avant de reprendre normalement leurs activités. Cependant, certains opérateurs économiques qui accusent d'importantes pertes financières tentent de limiter les dégâts. Ils ouvrent partiellement les portes de leurs boutiques devant lesquelles ils sont assis, prêts à servir les rares clients qui passent par là. Pour éviter tout dérapage, le maire de la ville de Beni a appelé jeudi la population au calme et à ne pas recourir à la violence. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Comme indiqué dans les titres à Kinshasa, les chrétiens catholiques se sont rendus sereinement à la messe ce matin dans leurs différentes paroisses. Ils ont prié ce dimanche sous une surveillance policière renforcée, ce qui leur a permis de faire face aux menaces d'attaques proférées contre les églises par des individus non identifiés, comme l'a signalé hier la chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa dans son communiqué. Des détails dans ses papiers de Ask. Zibia Tayoro, rendu par Blaise Shindani Kambala.
Aucun signe de menace proférée n'a été observé ce dimanche dans les différentes paroisses du doyenné Saint-Jacques dans la commune de Lancelli. Les messes ont été dites sans interruption. Tous les matins, les dispositifs sécuritaires de la police territoriale ont été installés devant chaque paroisse, ce qui a permis de sécuriser les fidèles catholiques qui ont été invités par le cardinal Fridolin Ambongo d'aller à la messe afin de prier pour la RDC. Par ailleurs, dans certaines paroisses, les messes ont été un peu timides. Par exemple, à la paroisse Saint-Robert, l'église n'a pas été bondée de chrétiens comme d'habitude. Selon les témoignages recueillis sur place, vu les menaces d'attaque qui pesaient sur l'église catholique, certains fidèles auraient joué à la prudence de rester à la maison. Une manière pour eux de se mettre à l'abri de ces attaques préméditées mentionnées dans le communiqué de la chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa. Au niveau de la police, les communications radio n'ont révélé aucun incident dans des paroisses. Même dans les taxis-bus, plusieurs Kinois rapportent que les dimanches d'aujourd'hui est calme. La population vaque en toute quiétude jusque-là à ses occupations.
Merci Blaise Shindani. Le gouverneur de la province du Kwilu, Jean Mayo Mbongo Passi, a lancé à Bandundu le projet Réponse multisectorielle d'urgence et d'appui à la résilience des déplacés dans les zones de santé de Bandundu et des Bakata. Ce projet financé par le Fonds humanitaire en RDC et mis en œuvre par l'ONG nationale Cause Rurale bénéficiera à 600 ménages, soit 3600 personnes parmi les 1200 ménages de déplacés ayant fui les exactions de la milice Mobondo à Kwamout. L'objectif est d'améliorer les conditions de vie de déplacés le plus touchés par l'insécurité alimentaire. Reportage de Irène Mboma Louzolo.
Pelagie Makedika est la coordonnatrice de l'ONG Cause Rurale. D'après elle, le projet dénommé Réponse multisectorielle d'urgence et d'appui à la résilience des déplacés dans les zones de santé de Bandundu et de Bagata en province du Kwilu cible au total 1200 ménages de déplacés de Kwamount pour une durée de 12 mois. Elle précise que sa structure qui met en œuvre ces projets du Fonds humanitaire RDC va appuyer au moins 600 ménages dont 240 à Bandundu et 360 dans les territoire de Bagata. La même source ajoute que ce projet vient répondre à la première priorité de ces déplacés, qui est le secteur de la sécurité alimentaire. Pelagie Makedika.
À travers la sécurité alimentaire, nous allons apporter ce que nous appelons l'assistance d'urgence, c'est-à-dire qu'on va donner des vivres, des protections. À côté, nous allons faire la relance agricole. Nous allons donner aux ménages déplacés les semences maraîchères et vivrières pour qu'eux-mêmes soient capables de produire, de faire leur propre autonomisation. Nous avons ajouté une activité génératrice de revenus, c'est la distribution des moulins manioc et à maïs. Et on va donner à chaque ménage un petit moulin à pâte d'arachide.
Ce projet va être exécuté dans trois sites, à savoir la ville de Bandundu, la cité de Bagata et le secteur de Manzasai. Iran Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Dans le Haut-Katanga, la Société nationale d'électricité SNEL de Lubumbashi déplore le dommage causé à son réseau par certaines entreprises qui creusent le long des artères pour installer les fibres optiques. Le dernier incident survenu vendredi dernier a plongé plusieurs quartiers de la ville dans le noir. Selon le directeur provincial de la SNEL, cette situation a entraîné un manque à gagner considérable pour la société. Plus de détails avec Jean-Marie Mouton Bongoy, directeur provincial de la SNEL Katanga, au micro de Jean Gandou.
Ils ont pioché le câble de puissance qui alimente notre sous-station Inilou. Et dans l'entretemps, nous avons pris des dispositions pour alimenter les points stratégiques qui sont la prison centrale de la Kasapa et également les cités universitaires, hormis les autres parties de la ville qui sont restées sans courant. Cela a causé un manque à gagner pour la SNEL estimé à plus de 500 000 dollars. Vous avez une partie du quartier Ewabora, une partie de Loano, une partie de Gambela 1, 2, 3. Et vous avez la population qui sont autour de CEDEM. Hormis ça, vous avez la régie des eaux, qui est un client à moyenne tension, et tant d'autres. Nous avons toujours dit que les ouvrages passent dans la servitude. Vous avez les tuyaux régie des eaux, vous avez la SNEL. Lorsque vous voulez exploiter les mêmes servitudes, venez à la SNEL pour que nous puissions regarder ensemble si à ce niveau-là, les câbles ne passent pas. Si les câbles passaient, nous allons désigner quelqu'un pour vous accompagner afin que nous puissions protéger votre ouvrage. Et vous devez savoir que lorsqu'on blesse ces câbles, les points deviennent faibles. Ça devient également une source de perturbation dans l'avenir. Or, nous devons éviter cela.
Actualité internationale.
Au Niger, le général Tiani ouvre les assises nationales qui doivent définir le principe de la transition. Lors de la cérémonie d'ouverture à laquelle était présent le gouverneur, leader religieux, représentant de la société civile, la délégation du Burkina Faso et du Mali, le général Tiani a ouvert ses assises nationales avec une brève allocution transmise à la télévision nationale. Le discours a rappelé les objectifs de l'événement, définir le principe fondamental devant régir notre transition, définir la période de transition et définir les priorités nationales de la transition et rappeler les valeurs fondamentales devant guider la refondation de la République. Le chef des militaires au pouvoir a ensuite précisé que si l'organisation de ces assises avait pris autant de retard, c'est parce que le Niger fait face à l'animosité de certaines puissances occidentales et leurs complices africains.
L'invité.
Depuis la deuxième semaine de cette année, une centaine de cas de choléra, dont un décès, ont été enregistrés dans les zones de santé de Kalemi et de Niemba. Germain Kalunga, superviseur chargé de soins de santé primaire dans la zone de santé de Kalemi, explique que Kalemi est une zone endémique épidémique de choléra. Cette situation est due à la consommation d'eau non traitée provenant du lac Tanganyika et de la rivière Lukuga. Écoutons Germain Lukunga dans cet entretien avec Paulin Munanga.
Monsieur Germain Kalunga, bonjour.
Bonjour.
Il y a résurgence des cas de choléra dans la ville de Kalemi. Comment se présente la situation ?
Il est vrai que nous sommes déjà en épidémie de choléra. Depuis la deuxième semaine de l'an 2025, nous avons commencé par 35 cas, mais la semaine passée ici, nous avons comptabilisé 73 cas uniquement pour la zone de santé de Kalemi. Mais il y a d'autres malades qui viennent de la zone de santé de Niemba qui sont comptabilisés au niveau du centre de traitement des maladies diarrhéiques.
Qu'est-ce qui explique le fait que chaque année, il y a des cas de choléra qui sont enregistrés ici dans la ville de Kalemi?
Kalemi, d'abord, c'est une zone endémique épidémique de choléra. Depuis les années 77, nous vivons des pics de choléra chaque jour, voire chaque semaine et chaque année. D'abord, il y a la présence du lac Tanganyika et aussi la présence de la rivière Lukuga qui fait que c'est dans les eaux que les vibrions colériques sont en train de vivre. Alors le problème de l'insuffisance de l'eau potable au niveau de la ville et ses entourages, c'est ce qui fait que la population ne consomme pas assez de l'eau potable. Et voilà le fait d'utiliser l'eau non potable, ce qui fait que le choléra est en train de persister du jour au jour, de semaine en semaine, de mois en mois, des années en années.
Ça veut dire que la population consomme l'eau du lac Tanganyika et de la rivière Lukuga?
Affirmatif. Une grande population consomme l'eau de la rivière Lukuga et du lac Tanganyika, puisqu'il y a insuffisance de l'eau potable, beaucoup plus. Les robinets ne coulent pas, ça peut couler aujourd'hui, une semaine après, voire même deux fois le mois, trois fois le mois, ce qui fait que la population, en consommant cette eau, s'expose beaucoup plus à des maladies diarrhéiques telles que le choléra que nous sommes en train de parler aujourd'hui.
N'y a-t-il pas des sites de chloration d'eau ici à Kalemi?
Ici à Kalemi, en ville, si je peux parler des sites, c'est moins de 10. La zone de santé de Kalemi, seule, a plus de 400 000 habitants, avec 10 sites de chloration installés par la Croix-Rouge, c'est vraiment insuffisant. Et pourtant, d'habitude, en cas d'épidémie comme ça, nous allons au-delà même de 100 sites pour que la population ait un peu accès à l'eau potable.
Présentement, comment se fait la prise en charge des malades?
D'abord, il faut dire que la prise en charge des malades est gratuite au niveau de notre centre de traitement diarrhéique. C'est ce qui fait qu'il y a moins de décès, puisque dès que vous arrivez, on vous prend en charge, quelle que soit la durée, quelle que soit la quantité de sérum que le malade doit prendre. Donc, jusque-là, le soin est vraiment gratuit, 0 franc congolais. Même la fiche n'est pas payable.
Et les médicaments sont là?
Les médicaments, bon, nous trouvons les médicaments jusque-là à travers la DPS, donc la Division Provinciale de la Santé, qui nous rend les Ranger Lactate, les Estro et les autres intrants, les cathéters et autres pour la prise en charge des choléra, mais ça ne suffit pas. Normalement, chaque aire de santé se trouvant le long du lac, le long de la rivière Lukuga, devrait avoir un stock pour pallier à cette situation, ce qui n'est pas le cas.
Présentement, combien de cas vous enregistrez au niveau du centre des traitements des maladies diarrhéiques qui est installé ici à l'hôpital général de référence?
Nous avons commencé à 35 cas la deuxième semaine, 48, 50, 60, mais aujourd'hui nous sommes au-delà de 70 cas. Par exemple, la semaine passée, ici la semaine 6, le centre des maladies diarrhéiques seul, comme ça englobe les deux zones de santé, a accueilli 108 cas de choléra, dont 65 pour la zone de santé de Kalemi et 43 pour la zone de santé de Niemba. Donc, ce qui fait que dans notre centre de traitement, on n'a pas moins de 60 malades par jour qui sont internés.
Quelles sont les mesures à observer pour prévenir cette maladie de choléra?
Les conseils que nous sommes en train de donner dans la plupart des cas à notre population de Kalemi, c'est d'abord de ne pas consommer de l'eau non chlorée. Donc d'éviter de prendre les aliments froids, il faut prendre les aliments chauds, il faut éviter que les enfants ou les adultes ne consomment pas cette eau impropre, donc il faut chlorer l'eau. Au besoin, il faut même bouillir l'eau, comme nous n'avons pas assez de sites de chloration, et aussi se laver les mains d'une façon quotidienne et éviter de prendre les aliments qui sont exposés sur la route à cause des mouches qui est vraiment le vecteur potentiel.
Monsieur Germain Kalunga, je vous remercie.
Notre invité Germain Kalunga, superviseur chargé de soins de santé primaire dans la zone de santé de Kalemi, répondait aux questions de Paulin Munanga. Ainsi s'achève ce journal sur Radio Kapi. À la mise en onde, Polydor Basunga, à la coordination Blaise Jordan Shindani et à la présentation Gisèle Cage. Restez connectés avec nous sur WhatsApp via les liens disponibles sur nos réseaux sociaux, notamment Facebook et X. Ce fut un plaisir de vous informer tous ces week-ends. Je vous retrouve très bientôt sur la même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.